Chanteur, parce que souvent on sait que dans les groupes c'est les chanteurs qui représentent le band, puis c'est difficile d'avoir les gens même avec les chanteurs, mais là je vois que vous venez sans lui, fait que je trouve ça très cool, merci.
Il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'il y a, avec le concept de frontman, souvent il y en a un qui va porter plus
le facteur de connexion humaine à travers ça, tu sais.
Vraiment. Puis c'est de même que ça a commencé. Tu sais, nos tunes, mes tunes préférées de notre band à date, c'est vraiment ceux qu'on a composés en chess dans les locaux du cégep, suant. Puis tu sais, moi je venais juste d'arriver au cégep, on se connaissait à peine, mais on s'est comme découvert là-dedans. Puis je pense que c'était vraiment la meilleure manière de starter ce projet-là.
Mm-hmm. Super. Et puis, finalement, là, vous avez commencé à jammer ensemble, mais c'était tout de suite clair, OK, on fait un band, on veut faire des shows, on veut faire ça, on veut faire ça. Au départ, c'était vraiment plus, tu sais, vous jammiez. Comment est-ce que c'est devenu plus sérieux? Puis, ce l'est sérieux, j'imagine, si vous êtes ici en ce moment avec
absolument,
moi.
Absolument.
Ben, en fait, on a commencé à jammer pour le fun, parce que on s'ennuyait un peu par-ci, par-là. Puis, en fait, on a commencé à jammer au cégep. Après ça, ben on a trippé. Puis, on s'est en allé dans le sous-sol de notre chanteur chez ses parents.
Ah.
C'est genre un sous-sol pas fini qui doit faire 10 par 10, mettons.
C'est comme parfait pour votre style de musique.
Ouais, c'est l'était dans le temps. En tout cas, on avait un espace pour jouer de la musique. Puis ben, moi, à un moment donné, j'ai décidé de composer des paroles.
OK.
Puis d'amener des paroles aux gars, puis composer de la musique, en fait.
C'est toi qui fais les paroles, puis le chanteur les interprète.
Ben en fait, au moment où on se parle, on est rendu pas mal tout... Ben on s'implique pas mal tout dans le processus de création, mais quand ça a commencé, j'ai écrit les bases des premières chansons, les paroles, puis les... les coches de guitare, puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben Émile a amené ses drums, Justin interprétait les paroles, puis en écrivait aussi de son côté. Fait que à partir du moment que j'ai commencé à composer, les gars ont tous commencé aussi.
Okay. T'as été comme le pionnier un petit peu en termes de composition, mais les autres ont suivi, puis c'est sûrement ce qui fait que justement, vous avez la belle connexion de laquelle tu parles. Puis souvent, dans des bands, on entend parler de la charge que ça prend d'avoir un band, puis c'est souvent parce qu'il y a une personne qui porte énormément plus de choses, puis ça n'a pas l'air d'être le cas pour vous. Je trouve ça vraiment génial. Souvent, c'est ce qui fait que les bands fonctionnent pas, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que c'est un bon signe. Donc là, vous, on vous connaît pas. Vous êtes assez underground en ce moment. Votre musique joue pas à la radio, etc. Pourquoi? Parce que vous en avez pas de sortie. Mais pourquoi est-ce qu'on sait un peu vous êtes qui pareil? C'est parce que vous êtes quand même là. Vous faites quand même des shows.
Exact.
Right.
On fait ça. C'est sûr qu'on aimerait ça, t'sais, avoir de la musique de sortie puis tout ça. Mais je pense que depuis les tout débuts qu'on faisait ça dans le sous-sol, on le faisait pas pour l'avoir sur notre cellulaire. La musique, c'était pour la jouer puis dégager une certaine énergie qui vient avec cette musique-là.
Mm-hmm.
Puis cet été, ben c'est ça, on a commencé à faire des shows.
Ouais.
Je pense que c'est comme ça que notre nom a commencé à se promener un peu.
Exactement, c'est comme ça que je l'ai connu. En fait, je l'avais déjà vu sur les réseaux. Il y a une amie à moi, Eve Goulet, qui avait pris des photos de vous, qui a déjà pris des photos pour moi dans des précédents projets. Puis il y a des gars aussi que je connais de la Rive-Sud qui m'avaient parlé de vous, qui avaient dit « Ah, il y a un band, là, de la Rive-Sud, les gars, ils déchirent vraiment. Je sais que c'est pas trop ton créneau, mais check leurs affaires. fait que voilà. Et donc, t'as parlé de show, là. Vous avez fait donc 3 spectacles, si je me trompe pas, cet été. Un en juin, juillet et août.
On a fait plus de shows que ça, un petit peu.
OK.
Puis, on a fait des événements un peu underground. On a même fait un show dans la maison de mon ami.
Ah, j'en ai entendu parler de ça. Ce qui paraît, c'était légendaire.
C'était malade.
Comme un gros party de maison, mais avec un band de rock à l'intérieur. Wow.
Exact.
Puis,
j'étais où?
J'étais où? Je sais pas. T'étais invité, en tout cas.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, c'était à pas manquer. C'était vraiment hot. Puis on aimerait remercier notre ami Thomas de nous avoir laissé faire ça, mais tu sais, c'est...
J'espère que ses parents n'écoutent pas l'émission.
OK, ils le savent pas. Mais vous avez vraiment bien fait ça, alors.
Ouais
ben en fait, une chose aussi, c'est qu'on a invité tous nos amis, puis tous nos amis qui sont tout le temps là pour nous autres, ceux qui sont tout le temps là à nos shows, ils ont été hyper respectueux, puis tout s'est bien passé, rien de brisé, puis tout le monde a apprécié le spectacle. Fait que... Je voulais aussi remercier, je vais prendre un moment pour remercier tous les amis qui nous suivent, puis qui sont tout le temps là, puis qui amènent la meilleure des énergies à tous nos spectacles. C'est vraiment précieux pour nous autres.
Vous avez définitivement une bonne crowd si vous avez fait un house party avec le band et vous n'avez rien crushé. Ça me pousse à vous dire, ben, j'imagine que la plupart des fans de rock le savent, mais moi, je suis une fan de hip-hop à la base, puis il y a tout le temps eu des préjugés, genre les deux communautés l'une sur l'autre. Mais moi, je trouve que les communautés de la communauté rock puis metal est vraiment super respectueuse puis vraiment inclusive, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser de l'extérieur. Puis selon ce que vous me dites, ben ça me confirme un peu ça. Donc là, vous aviez fait la première partie de Sedmi et Faded au Scanner Bistro le 4 juin. Ouais, ça, exact. C'était comment?
Je te reprends, c'est Phased Out. Mais
oui, Phased Out, pardon.
Il n'y a pas de trouble. Mais on a fait une première soirée au Scanner. C'était super. Encore une fois, tous nos amis étaient là. Il y avait quand même beaucoup de monde. Ça a été notre premier vrai show, comme officiel.
OK.
Puis encore là, on a vraiment aimé notre expérience.
Le Scanner, c'est un bon bar pour votre
vraiment,
crowd.
Vraiment.
Mm-hmm. Ouais. Puis ensuite, là, vous avez fait la première partie de Big Loser. À la sauce de la matinière?
Oui.
Ouais. C'était comment performer à la sauce de la matinière?
C'était vraiment cool. En plus, justement, il nous est arrivé un avarie juste avant, une semaine avant le show. John, ici, qui a pogné la COVID.
Ah non.
Donc là, on se retrouvait avec. On se retrouvait sans bassiste. Donc on a décidé de faire un set acoustique. On a pris une couple de nos chansons. Qu'on jouait électrique habituellement, puis une couple de mes compos acoustiques, parce que je compose beaucoup à l'acoustique aussi. Puis on s'est reviré sur un 10 cents, puis on a joué un set de 5 tunes à l'acoustique, au lieu de faire un power set électrique.
Il a fallu improviser, certainement, puis je pense que c'est une bonne affaire, au moins qu'on est tight, on est vraiment bons amis avant autre chose.
Oui, là, absolument.
C'était vraiment cool. Moi, ça m'a débarqué des drums aussi. Là. J'ai pu embarquer sa guitare acoustique sur la bass que jamais je remplirai comme mon cher Jonathan. Mais c'est vraiment le fun. C'est une expérience qui nous sort de notre confort. Là.
Ça prend définitivement cette capacité-là à improviser pour faire des spectacles et être capable de bien les assurer. Donc, à noter pour tout le monde qui pense peut-être à booker un bon band de punk rock, grunge, mid-diverse, ils sont même capables d'adapter leur set et de faire des sets acoustiques. Donc, c'est important si on veut être capable de se produire dans différents types de salles. Puis aussi d'élargir le public qu'on veut viser, parfois. Et donc, voilà, il y avait ces shows-là. Puis il y a aussi eu le Mini Wild. Donc, c'était quoi exactement là, cet événement-là? Moi, j'ai vu des stories sur les réseaux sociaux de comme du monde dans la rue qui dansait sur votre musique. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, le Exo Shop en Basseville, qui existe depuis 1989, font pas mal des événements. Ils font souvent des événements. Ils font un événement de musique pas mal à chaque été. C'est différent en fait d'année en année. Cette année, c'était plus formule mini wild, fait qu'ils ont pris 5 vendredis dans le fond. Ils ont fait plus un mini show en avant du shop. C'était vraiment cool. On a joué avec Sedmi encore une fois. C'était gratuit, c'était all age. C'est ça qu'on a besoin dans la ville de Québec, plus de shows pour tout le monde.
Accessible finalement, ben oui, surtout pour faire découvrir des artistes de la relève. Tu sais, on sait que la situation économique actuelle, puis surtout comment les gens sont en général prêts à investir dans la culture, c'est difficile pour des artistes de la relève de se faire découvrir par des gens qui les connaissent pas, qui ont pas de référent, d'aller écouter leurs chansons sur Spotify, etc. Donc, des événements comme ça, ça aide vraiment à se faire connaître. Puis en plus, c'était sur la rue Saint-Joseph qui était piétonne.
Mm-hmm. Ouais, exactement. Exact. Direct la rue Saint-Joseph qui était barrée exactement en avant du Exo, dans le fond. Gros shootout à Exo Shop pour tout le temps faire des trucs vraiment cool. Shootout à Sedmi aussi. Aller écouter leur. Ils ont sorti un album pendant la pandémie. Si vous voulez aller écouter sur leur Bandcamp, Sedmi, Bandcamp, leur album Redless, incontournable.
Très bon album.
Mm-hmm. Allez écouter Sedmi.
C'est les meilleurs dudes en plus.
C'est les meilleurs dudes.
Ils sont gentils.
Mais ça, c'est important. C'est important. Il y a le côté humain là-dedans qu'il ne faut jamais oublier.
Exact. Oui.
Alors là, vous avez eu un gros été. Je le répète encore pour des gens qui n'ont pas sorti de musique. C'est impressionnant. Félicitations.
Merci.
Mais qu'est-ce qui va se passer là, pour l'automne, pour Mid-Diverse?
En fait, on est un peu triste d'annoncer ça, mais notre très cher Émile ici étudie à Montréal. Donc, doit quitter ses drums pour un instant. Donc là, on est présentement à la recherche d'un drummer, mais on continue quand même à travailler en studio beaucoup.
Ensemble?
Oui, c'est okay. ça. Puis Emile est un guitariste aussi hors pair, je pourrais dire.
Je suis également un mid-divers éternel, donc c'est sûr que moi...
Un fondateur.
C'est sûr que moi, c'est mes meilleurs potes, le fait qu'il n'y a pas de stress que je vais être avec eux autres, puis on va continuer de composer, même si moi, j'étudie à Montréal, puis... Si tout se passe bien l'été prochain, je devrais être à Québec, puis on devrait continuer de déchirer la scène, mais on va voir comment le temps nous mène.
Je suis certaine que vous allez réussir à faire tout ça, puis tout le monde, hein, vous avez entendu, il faut un drummer pour Mid-Divers, aidez-les, trouvez-les sur Instagram, allez leur envoyer votre candidature. Mm-hmm. C'est sûr que là, ils ont déjà vraiment une bonne référence, ça va être peut-être difficile de se faire prendre, mais essayez-vous tout de même. Sur ce, messieurs, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi.
Merci à toi.
Merci d'avoir accueilli.
Ça fait plaisir. On va continuer en musique avec la chanson Same de OBGMS.
Thinking in my blood, overthinking, feeling scared and deep within. écoutes Cheese 94.3.
On est maniaque de Cheese depuis 25 ans.
Vous êtes toujours sur les ondes de Chiz 94.3 et vous écoutez Chérie J'arrive. Alors, pour la première heure de cette émission que je n'aime exceptionnellement, j'ai eu une entrevue avec Caroline Olivier qui nous a parlé de Tobor 2, un organisme à but non lucratif qui a pour but d'entretenir une école au Sénégal. J'ai aussi eu une entrevue avec le band de grunge rock punk qui s'appelle Middiverse. Et maintenant, c'est le temps de la chronique littéraire d'Alex Tremblay-Lamarche. Il va nous parler de deux livres, Les Plaines d'Abraham, qui va parler des champs de bataille de 1759 et 1760, ainsi que du livre Les filles du roi, pionnières des seigneuries de la côte du Sud. Bonjour Alex.
Bonjour Erika.
Comment vas-tu?
Très bien, contente de faire ta connaissance.
Ben oui, moi aussi.
et de venir parler d'histoire et de littérature avec toi aussi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, les fêtes de la Nouvelle-France, oui, et les rendez-vous d'histoire de Québec. Et je me suis dit, ben, pour l'occasion, j'avais envie de venir te parler de deux ouvrages. L'un qui parle des débuts de la Nouvelle-France avec l'arrivée des Filles du Roi, puis un autre qui parle de la fin de la Nouvelle-France avec la bataille des Plaines d'Abraham qui est restée dans la mémoire.
Oui, donc la fête de la Nouvelle-France, d'ailleurs, qu'on a vu qui avait lieu parce qu'en ville, on voyait plein, ouais, de gens qui étaient costumés, en fait. C'était super. Il y a plein de monde qui se demandait, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce que ça reprenait après deux ans d'arrêt, ou bon, du moins deux ans de fête de la Nouvelle-France dans une version un peu plus light. Et parmi les costumes qu'on pouvait voir, bien, il y avait des costumes de filles du roi, mm-hmm, ces jeunes orphelines qui vont arriver ici au 17e siècle. Et ce sont un groupe de femmes qui sont considérées comme les mères de la nation que la Société d'histoire des filles du roi a eu envie de faire connaître en faisant, mmh, toute une série d'ouvrages sur ces femmes-là qui sont considérées comme les mères de la nation. Parce que, oui, effectivement, bon, la Nouvelle-France, c'est beaucoup de colons, de jeunes hommes qui viennent ici pour être dans les fourrures ou travailler pour les jésuites ou pour d'autres communautés religieuses. Mais pour fonder des familles, ça prenait aussi des femmes.
Exact.
Et donc, le roi avait décidé de donner une dot à des jeunes filles pour qu'elles viennent ici et se marient, d'où le nom de filles du roi.
Des filles qui étaient toutes orphelines.
Exact. Ben, enfin, ou du moins la plupart. Souvent, c'est des jeunes filles qui n'auraient pas été capables d'avoir une belle vie en France ou une vie aussi belle parce qu'effectivement, ben, elles n'avaient pas... Ben, à l'époque, lorsqu'une femme se mariait, ben, il fallait qu'elle vienne avec une dot. Donc, un montant d'argent qu'elle amenait dans le ménage. Et ben, sans ce montant d'argent-là, des fois, c'est plus difficile de trouver un mari, ou sans avoir être issue d'une bonne famille, c'était plus difficile. Et donc, ben, ces jeunes filles-là espéraient être capables d'avoir un meilleur avenir ici. Et c'est ce que détaille la Société d'histoire des filles du roi dans cet ouvrage, en nous offrant une biographie de chacune des 37 filles du roi qui sont venues s'installer sur la côte du Sud.
Mm-hmm. Donc, c'est 37 femmes qui sont à la base de nombreuses familles québécoises, d'ailleurs.
Tout à fait. Parce que, bon, on a notamment un tableau assez intéressant à l'intérieur où on voit ces 37 filles du roi et on voit leur nombre d'enfants. Certaines n'en ont aucun, d'autres en ont 1, 2, 4, 7,
13.
Voire... Non, ça se rend jusqu'à 12.
Non, jusqu'à 12, OK.
La plus fertile en a eu 12. Mais effectivement, après, on voit les petits-enfants. Ça se rend jusqu'à 93 dans certaines. Et arrière-petits-enfants, il y en a certaines qui en ont eu jusqu'à 605. Je pense notamment, bon,
wow,
à Élisabeth Agnès Lefebvre. Donc, on voit qu'elles ont eu beaucoup d'enfants, qui ont eux-mêmes eu beaucoup d'enfants, qui ont eux-mêmes eu beaucoup d'enfants et que ça a eu un effet démultiplicateur sur, mm-hmm, cette région-là. Je me permets de situer la Côte-du-Sud pour les gens qui connaîtraient peut-être un petit peu moins bien la région. C'est la région entre Beaumont et Kamouraska.
Ouais.
Donc, la rive sud, à partir de la rive sud de Québec, en s'en allant vers Rivière-du-Loup.
Mm-hmm.
Puis c'est une région qui va être très tôt peuplée à l'époque de la Nouvelle-France parce qu'il y a des bonnes terres fertiles. Puis aussi, on est à côté de l'autoroute par excellence de l'époque, le fleuve Saint-Laurent.
Oui, exactement. Donc, la société québécoise s'est beaucoup développée à partir de là. Donc, ces femmes du roi-là sont venues. Elles ont fait des grosses familles. Puis, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un contexte religieux aussi, que ces femmes-là étaient vraiment poussées à venir ici pour aider à construire la société actuelle.
Tout à fait. Faut dire que, bon, elles vont être accueillies par les religieuses à Québec, par aussi Marguerite Bourgeois à Montréal. On le met notamment de l'avant dans un autre ouvrage de la série, celui sur les seigneuries de Varennes et Verchères qui est sorti un petit peu plus tôt cet été. Parce que oui, elles se sont installées sur la côte du Sud, mais elles se sont aussi installées, bon, à Québec, à Montréal, à Repentigny, un peu partout au Québec. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je te parle de celui-là sur les filles du roi pionnière des seigneuries de la Côte-du-Sud, mais j'aurais pu te parler aussi des autres tombes de la série qui, mm-hmm, traitent de Montréal, de Repentigny, de Varennes et de Verchères. Et il faut saluer effectivement l'initiative de la Société d'histoire des filles du roi qui est vraiment de faire une biographie de chacune de ces filles qui est venue ici. Et pendant longtemps, on a fait la généalogie en s'intéressant surtout aux hommes,
oui,
au Québec.
Absolument.
Et en laissant les femmes de côté.
Partout dans le monde, d'ailleurs.
Oui, partout dans le monde, effectivement.
Oui, exact.
Et en laissant ces femmes-là de côté, il y a vraiment une volonté de faire des biographies individuelles de chacune de ces femmes. Dans certains cas, on n'a pas grand-chose parce que, bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'archives.
Non, c'est ça. Mais sur certaines, il y en a. Puis c'est quand,
oui,
même une chance d'avoir, en fait, d'avoir accès à ces archives-là parce qu'on est un peuple qui est très jeune. Et puis, donc, c'est tellement extraordinaire de pouvoir aller voir c'est qui nos ancêtres, les premiers qui sont arrivés ici,
ouais,
notamment à travers des ouvrages comme ça. Donc, je pense que la plupart des gens... Québécois pourraient regarder ça puis trouver soit un ancêtre ou bien un ancêtre d'un ami, quelqu'un de près ou de loin dans la famille du moins.
Effectivement, parce que bon, les pionniers de la côte du Sud vont par la suite se disséminer un peu partout au Québec.
Ouais.
Donc même si vous êtes originaire de la région de Montréal ou de l'Outaouais, de l'Abitibi, de la Gaspésie, il y a des chances que si on remonte votre arbre généalogique à quelque part, on trouve quelqu'un qui vient de la côte du Sud. Et je dirais c'est aussi un ouvrage qui s'inscrit dans les commémorations qu'il y a tout au long de l'été cette année, parce que plusieurs de ces paroisses-là qui fêtent un anniversaire, Rivière-Ouelle entre autres,
oui.
Si je ne m'abuse, il y a d'autres paroisses, Saint-Denis de la Bouterie, mais là j'ai des doutes sur celle qui fête un anniversaire. Et donc, ça permet effectivement de documenter davantage cette histoire-là et d'en apprendre plus sur l'histoire des femmes. On a également quelques petits textes aussi qui permettent de contextualiser en dessous des biographies. Donc, un texte qui parle, c'était quoi les conditions de vie à Paris pour ces femmes-là avant. Un texte qui parle un petit peu, bon, de la traversée. Un texte qui parle des gouverneurs à cette époque-là. Donc, ça permet d'enrober effectivement ces biographies-là d'informations qui permettent de mieux comprendre l'époque.
Est-ce qu'on a, à travers ça, des témoignages réels de ces femmes-là ou bien t'sais, des lettres peut-être qu'on a retrouvées, des journaux de bord? Est-ce que c'est vraiment juste un travail qui a été fait historiquement par le regroupage d'informations, par déduction, etc., ou on a vraiment des preuves tangibles de l'expérience de ces femmes-là?
On a des preuves tangibles de l'expérience de ces femmes-là, que ça soit effectivement bon, les actes de naissance de leurs enfants, de mariage, de décès. On a également bon, des documents notariés qui permettent de rendre compte d'achats de terre ou effectivement de déménagement, ce genre de choses-là. Mais malheureusement, comme ce n'était pas des femmes qui étaient issues de l'élite, eh bien, on n'a pas de lettres.
De témoignages non plus.
De témoignages directs. Ben, on a des témoignages indirects parce que, bon, on veut pas, ben, un acte de mariage où une telle assiste, ben, on est capable de voir un lien d'amitié.
Ah oui,
on est capable, effectivement, de voir des liens familiaux qui sont appelés à se former. On est capable de voir aussi bon, la construction d'une maison, ce genre de choses-là.
Ouais, oui.
Mais quand on est effectivement plus du côté des femmes, je dirais, du peuple, c'est plus difficile effectivement d'avoir des lettres manuscrites ou des journaux intimes à l'époque de la Nouvelle-France. C'est quelque chose qu'on a plus pour les femmes de l'élite et qu'on va avoir un peu plus pour les femmes du peuple ou des classes moyennes, du moins à partir du 19e et du 20e siècle.
Parce qu'on le rappelle, donc si ces femmes-là sont venues... ici, en Nouvelle-France, si elles étaient les femmes du roi, c'est parce que, justement, elles venaient de familles plus pauvres ou bien elles n'avaient pas de famille et donc elles n'avaient pas accès à l'éducation.
Oui et non. Dans certains cas, elles ont fréquenté des couvents à Paris et ça leur donnait, bon, accès à une certaine...
Celles qui sont orphelines.
Oui. C'est okay. Ça, ça leur donnait une éducation. Et c'est notamment ce qui ferait qu'on aurait une langue... commune au Québec qui ressemblerait plus à la langue qu'on parlait à Paris à l'époque. Parce que, bon, ben on le sait, hein, on dit langue maternelle. Et donc, on avait des hommes qui venaient d'un petit peu partout en France, plus de l'ouest de la France, un peu de Paris. Et en ayant ce gros lot de femmes qui arrivent effectivement d'une même région, qui parlent un même français, ben c'est ce qui a amené un certain français au Québec.
Super. Alors ça, c'est pour le premier livre. Mm-hmm. Maintenant, passons au second, Les Plaines d'Abraham, champ de bataille 1759 et 1760. Donc, je suis certaine que tout le monde qui écoute est familier avec ces batailles-là. Mais pourrais-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui caractérise ce livre-là particulièrement?
Bien sûr. Ben, peut-être un petit mot sur les deux batailles, en fait, des Plaines d'Abraham, si je peux m'exprimer ici. Parce que, bon, ce sont quand même quelques auditeurs qui sont peut-être un peu moins au fait avec la chose. En 1759, eh bien, on a les Britanniques qui vont arriver devant Québec, vont assiéger la ville et vont la bombarder aussi pendant longtemps. Il ne reste plus grand-chose de la ville au lendemain de la bataille des Plaines d'Abraham parce que les Anglais sont installés à partir de la fin juin devant la ville à Lévis. Ils l'ont bombardé tout l'été jusqu'en septembre. Donc, ça a quand même été assez violent. Et donc, on voit, bon... tout ce siège-là qui se passe. Ensuite, on voit la bataille des Plaines d'Abraham, qui est une victoire des Britanniques. Puis, bon, le retrait des Français pour l'hiver et le retour des Français au printemps, où il va y avoir une revanche. La bataille de Sainte-Foy qui va se faire à peu près le long du chemin Sainte-Foy, un petit peu passé le monument des Braves dans le coin de l'avenue des Braves. et qui va être une victoire française, mais par la suite, effectivement, il va avoir des traités qui vont faire que ça va être l'armée, l'Empire britannique qui va conserver Québec. Donc, ce sont les événements dont on parle dans les plaines d'Abraham, champ de bataille 1759 et 1760. Et on parle également aussi de la mémoire, de l'héritage. Parce que, par la suite, il va vraiment rester cet événement-là dans la mémoire, mais aussi dans la géographie, si je peux m'exprimer ici.
Oui.
Parce qu'il va y avoir un parc qui va être aménagé, qui est très connu, où beaucoup de gens vont faire différentes activités. En fait, deux parcs, je devrais plutôt dire. Le parc des champs de bataille et le parc des Braves, qui visent à commémorer ces batailles-là.
Et le parc de l'artillerie?
Le parc de l'artillerie, lui, fait plutôt référence, à des forces effectivement des forces militaires françaises qui étaient présentes dès la Nouvelle-France. Il y avait des casernes là, notamment la Redoute Dauphine, puis les militaires britanniques qui ont occupé la ville jusqu'en 1871 se sont installés là. Il y avait des casernes et après il y a eu de la construction, plutôt de la fabrication d'armes à cet endroit. Donc on est dans un autre cas dont il n'est pas question dans cet ouvrage qui se cerne vraiment plus effectivement sur la bataille des plaines d'Abraham et la bataille de Sainte-Foy, les lieux où ils se sont produits et effectivement les répercussions.
C'est deux livres très intéressants qui sont intimement liés. Donc c'est vraiment, c'est très pertinent dans le contexte actuel. Donc, on fêtait la fête de la Nouvelle-France, de s'intéresser à ça. Et lesquels, toi, tu dirais qu'on devrait commencer à lire en premier, mettons qu'on veut avoir un portrait global de la chose?
Je dirais que dans les deux cas, c'est des ouvrages qui sont peut-être un petit peu plus pointus. Si on cherche à avoir un portrait global de l'histoire de la Nouvelle-France, il y a l'ouvrage de Jacques Mathieu qui date un petit peu, qui avait été publié au Pulse, si je ne m'abuse, qui est un ancien professeur de l'Université Laval qui fait un bon tour de la question. Mais dans les deux cas, c'est des livres qui peuvent être lus séparément et vous commencez par celui que vous avez envie de commencer. Si vous vous intéressez plus à la généalogie, à l'histoire des femmes, allez vers Les Filles du Roi, pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud. Si vous intéressez plus à l'histoire militaire, mais aussi à l'histoire de la ville de Québec, Les Plaines d'Abraham, champ de bataille de 1759 et 1760 va vous intéresser parce que on y traite vraiment effectivement de l'histoire de ces lieux-là. Et ce qui est assez intéressant dans cet ouvrage-là, c'est qu'il est richement illustré.
Exactement, c'est ça que j'allais dire. Donc, rapidement comme ça, juste en regardant les deux ouvrages, on en a un qui est plus petit, qui a beaucoup d'illustrations, donc celui des champs de bataille, et puis l'autre des Filles du Roi. Donc, c'est quand même un roman qui est plus gros, puis qui ne semble pas avoir beaucoup d'images à l'intérieur. Donc, selon le type de lecteur que vous êtes, ça peut peut-être vous aider à vous guider, aussi les lectrices, sans les oublier. Donc, voilà, toi, t'es un érudit de la lecture et de la chose. Merci d'être venu nous parler de ces deux ouvrages. Est-ce que t'aimerais dire un dernier mot avant de finir la chronique littéraire?
Oui, peut-être saluer le travail d'Hélène Quimper, qui était historienne à la Commission des champs de bataille nationale, qui est derrière l'ouvrage Les Plaines d'Abraham, champs de bataille de 1759 et 1760, et déplorer que son nom ne soit pas en couverture. C'est ça, on aurait aimé effectivement avoir le nom de cette historienne en couverture, qui est un gage de qualité. Quand on voit le nom d'un auteur qui est connu, qui est apprécié, dont on reconnaît l'excellence, c'est toujours un plus, effectivement, pour avoir envie de se procurer le livre. Et donc, on comprend difficilement le choix de la Commission des champs de bataille nationaux de ne pas avoir mis le nom de l'historienne qui était à son emploi sur la couverture.
Ça, ça semble être une faute professionnelle, d'une certaine façon. J'ai dit ça... En tout cas, nos jours, même quand on met une photo d'un photographe, sur Instagram, juste comme ça, il faut pas oublier de nommer personne.
Effectivement, et elle est indiquée effectivement dans les premières pages, mais personnellement, en fait, j'aurais apprécié qu'elle soit indiquée sur la couverture ou du moins en quatrième de couverture.
Qu'on lui donne un peu plus d'importance.
C'est quand même son travail.
Mais super, merci énormément Alex d'être venu et d'avoir parlé de ces deux romans, donc Les Filles du Roi.
Oui, en fait c'est deux essais plutôt. Les Filles du Roi, pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud, un ouvrage de la Société d'histoire des Filles du Roi publié chez Septentrion. Et Les Plaines d'Abraham, champ de bataille de 1759 et 1760, un ouvrage d'Hélène Quimper publié chez Boréal.
Merci beaucoup Alex.
C'est un plaisir Erika, à bientôt.
À bientôt. Alors c'était la chronique littéraire d'Alex Tremblay-Lamarre. marche. On va continuer en musique. On va écouter une chanson de Caroline Savoie qui s'appelle 27. Et par la suite, je vais vous faire un petit topo des nouvelles artistiques à noter pour la journée et demain. Chanson 27 de Caroline Savoie. Alors, on a eu une très belle émission aujourd'hui. C'est toujours Erika Zaria qui vous parle pour Chérie J'arrive. Alors, juste pour faire un petit recap, je viens d'avoir une chronique littéraire avec Alex Tremblay-Lamarche. On a parlé de deux romans. On a parlé des Filles du Roi ainsi que des Batailles des Plaines d'Abraham. Juste avant, j'ai reçu le band Mid-Divers qui est venu nous parler de leur projet punk, rock, grunge. Et au début, j'ai reçu Caroline Olivier qui est venue parler de Toborder, un organisme à but non lucratif qui a comme objectif d'entretenir une école au Sénégal. Pour les quelques minutes qui restent de l'émission, laissez-moi vous parler de quelques petites choses à noter à l'agenda culturel. Alors ce soir, il y a un événement au théâtre Périscope. C'est Mamie puis Dani de 19h à 19h45 et c'est gratuit. C'est un 35 minutes de spectacle qui est en fait un jeu masqué qui présente deux personnages loufoques et attachants, emplis des défauts, d'une incommensurable humanité, qui vont en fait venir montrer tout ça et comment ils se lient les uns à l'autre. Comment est-ce qu'un ado et sa grand-maman sont ensemble. On les suit à travers de leur quotidien, qui a priori est assez banal, mais qui est pourtant rempli de surprises et de bonbons. Ces deux êtres, ils ne répondent qu'à leurs envies et plus viscérales à leur instinct. Et souvent, plus qu'on le pense, à l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. C'est la première chose qui se passe ce soir et c'est très bientôt. C'est à 19h. Ensuite, on a aussi un autre événement ce soir qui s'appelle Casse-gueule. pardon, pas ce soir, demain, qui s'appelle Casse-gueule. Donc, c'est un trajet. Les spectateurs et les spectatrices invités qui vont au point A, à la Charponne des Fauves, vont ensuite être amenés à se déplacer à pied jusqu'au point B, à la Brasserie Saint-Malo. Ensuite, ils vont continuer à se promener et à être guidés tout au long par les organisateurs. Donc, on a à la Charponne des Fauves, à 18h30 l'arrivée, à 19h le duo Casse-gueule Rémi Bélanger de Beauport, à 19h30, on occupe notre temps mort, on profite un petit peu, et puis ensuite, on a une performance de Claudel Audelabrec, et finalement, Liberté d'expression 101 avec Thomas Langlois. Voilà pour l'agenda culturel de la journée. Ce sera moi qui serai encore aujourd'hui avec vous demain pour l'émission Chérie j'arrive du 18 août 2022. Ce sera un plaisir pour moi encore d'être là. Donc, je vous mentionne que je tire la fin de mon mandat avec Chiz cet été. Je continuerai à faire mon émission Beat Boîte, mais je ne serai plus là pour Chérie j'arrive. Sauf peut-être à certaines exceptions si on m'invite à faire des petites chroniques. Alors voilà, je vous renvoie en musique pour la fin de cette émission. On va écouter Depuis de Lydia Kepinski. Bonne écoute.
Une fois l'histoire d'un homme qui a fait sortir des récifs de l'éthanol et les sédatifs. Une femme qui n'était pas moi, les veines vidées sous la blessure du péché originel qu'elle avait soigné au cyanure. En échange, il promit d'être fidèle une fois pour l'écriture, deux fois devant l'éternel, trois fois jusqu'à la pourriture. Ce soir comme à tous les soirs, je vais danser, tu vas me voir. La gorge pleine de romances païennes, j'aurai dans le cœur un trou béant. Je descendrai dans la foule noire, irréversible comme le hachoir. J'y chanterai mes sentences anciennes jusqu'à ce que se remplisse le néant. Tu l'accordes, exauce ma prière, qu'elle me porte comme un cercueil, qu'elle m'escorte tête première, sans larmes et sans deuil. Une main sur le bâton témoin, l'autre dans les airs, vu de loin tu es encore plus beau. Demain, les cheveux en arrière, je tuerai les chimères. Brillante que diadème, veux-tu que je t'intronise héros? Je t'ai vu le dérober aux murennes. Tu dis que tu fis couler dans la chaux, palais plus vaste que l'Éden, pour te parer des pluies diluviennes. Vas-y, va la rejoindre dans son cachot. Si tu voyais comme c'est beau la neige, je sais tu l'as vu 40 fois. Le ciel est noir comme en Norvège, j'aimerais que tu vois ce que je. De son caractère pêche, quand elle s'endormira sur toi, moi je regarderai la neige périr dans un feu de joie. Un feu de joie, il jour les écluses. Après moi le déluge, le déluge s'abat droit sur moi. Ah ah ah, il jour les artères.
Ici Eric Azaria, je vous présente Beat Boîte, une émission hip-hop dans laquelle je me promène en festival pour faire la rencontre des acteurs émergents et établis du milieu hip-hop local et international. C'est tous les mercredis à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale, écoute Chiffre 94. Chérie, j'arrive du 17 août est déjà terminée. C'était Erika Zaria. Vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve demain.
Je ferai couler tous nos souvenirs.
Et puis tu tourneras